Gwyn Morlandi, votre phare dans la nuit.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Gwynement Lundi. Ce week-end s'est clôturé le Festival de Cannes, d'où sont repartis des réalisateurices et actrices, tout sourire, avec des palmes, et d'autres, moins sourire, avec des enquêtes de Mediapart pour violences sexuelles. Il semblerait que le festival ait décidé cette année de se mettre un petit vernis pailleté et revendique une sélection riche en représentation LGBTQIA+. Bon, je vais pas vous mentir, le regard fétichisant de cinéaste 6-7, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, un regard qui me parle, c'est celui des personnes réellement concernées par ces questions. Et leur voix, ben on les entend pas beaucoup. Et justement, il y a assez peu de temps, j'ai appris l'existence d'un cinéma lesbien et de son âge d'or. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Juliette, qui m'a aidé à préparer cette émission. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Eline. Je suis également très heureuse d'animer cette émission avec toi en direct de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Pour parler de cet âge d'or lesbien du cinéma, nous avons le plaisir de recevoir des invités exceptionnels. Laurine Labourier, tu es programmatrice et journaliste indépendante, spécialisée dans la représentation des personnages lesbiens et LGBT+, au cinéma. Salut.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Et nous avons également avec nous Sophia Versavo, tu es vidéaste, autrice et réalisatrice et également experte de l'analyse d'œuvres culturelles audiovisuelles.
Bonsoir.
L'âge d'or du cinéma lesbien, rien que ces quelques mots, ça fait rêver. Mais avant d'attaquer notre sujet, on aimerait dresser un bref historique des lesbiennes dans le cinéma. Alors, depuis quand y a-t-il un cinéma lesbien? Et même peut-être avant toute chose, comment chacun, chacune définiriez-vous le cinéma lesbien? Sophia.
Dans le cinéma lesbien, moi, ça, je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles. Moi, de ceux qui m'excitent le plus, je dirais que c'est un cinéma qui est fait par des lesbiennes et qui raconte notre perspective, notre point de vue sur le monde et qui dépeint des personnages qui le sont ou qui sont en questionnement ou qui sont traversés par ces choses-là, je dirais.
Laurine ?
Il y a plein de manières de répondre à cette question. Est-ce qu'on parle de réalisatrices qui avaient la possibilité de se dire lesbiennes à cette époque? Est-ce qu'on parle de films dans lesquels on représente des lesbiennes? Je suis hyper d'accord avec ta définition. Je crois que c'est un cinéma qui redéfinit aussi un certain regard, qui s'oppose au male gaze notamment, dans un texte qui est assez connu, qui a été traduit en France, je crois, encore assez récemment par la revue Débordement. Laura Mulvey, elle théorise la notion de male gaze. C'est un texte qui s'appelle « Plaisir visuel, cinéma narratif », si vous voulez aller y jeter un œil. Et dans ce texte, elle donne une définition que moi, je trouve assez puissante et qui rejoint complètement les images des cinéastes dont on va parler ce soir. Elle dit que se départir du male gaze, c'est arrêter de construire son désir à partir de la volonté d'enlever du pouvoir aux femmes. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose d'assez puissant. Et pour moi, on peut peut-être repartir de cette définition pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que le regard lesbien.
Et depuis quand est-ce que les lesbiennes, elles apparaissent dans les films? Sans parler forcément d'un cinéma lesbien, depuis quand est-ce qu'on a une représentation lesbienne au cinéma en général?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend des pays. Moi, je suis un peu plus à l'aise avec le contexte américain qui est celui sur lequel je travaille. Pour donner un exemple qui va un tout petit peu dériver de ta question, mais qui reste lié. Dans les années 30, il y a une réalisatrice américaine qui est la seule femme à faire du cinéma à Hollywood, qui s'appelle Dorothy Asner. Elle est lesbienne, Dorothy Asner. Elle va passer 40 ans de sa vie avec une chorégraphe qui s'appelle Marion Morgan. Elles vont relationner ensemble pendant une partie de leur vie, et ensuite elles décident de continuer de vivre ensemble dans une forme de partenariat amical et de création. Donc Dorothy Asner vit avec Marion Morgan jusqu'à la mort de cette dernière. Et Dorothy Asner, pour te donner un exemple, elle a jamais pu, je pense, représenter explicitement de personnages lesbiens dans ses films. En fait, c'est compliqué parce que la question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on se met à mettre des termes qui sont familiers pour nous aujourd'hui sur certaines idées, sur certaines représentations. J'avais lu un article de Committed qui disait que Dorothy Asner serait à l'origine de, par exemple, la première représentation de Butch au cinéma. J'ai pas vu tous ces films, j'ai pu en voir quelques-uns quand il y avait eu la rétrospective à Lyon au Festival Lumière. Mais, par exemple, Dorothy Asner, le thème de prédilection de ses films, c'est les romances et les amours qu'on dit non conventionnels. Donc, elle représente toujours des personnages qui sont en lutte pour s'aimer, des personnages que la société empêche de s'aimer, ce qui est peut-être une métaphore de ce qu'elle vivait, elle. Mais pour le contexte américain, en tout cas, moi, c'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal parce que j'ai pas envie que ces bornes, elles soient fixes. Et pour moi, c'est aussi un peu un biais sexiste, le fait que les femmes soient toujours valorisées par le fait d'être les premières dans les milieux artistiques. Mais en tout cas, on considère, et de nombreuses réalisatrices lesbiennes américaines considèrent que la première représentation lesbienne d'une personne qui se considère comme lesbienne, c'est Barbara Hammer dans Dyke Tactic. Elle est lesbienne, elle se filme en train d'avoir des relations avec ses amis, ses amantes. C'est un film qui est très beau. Donc, aux États-Unis, ce serait à peu près daté de 1974, je pense, cette représentation-là.
Et c'est quoi les principaux obstacles qui, tu l'as un peu évoqué en filigrane, mais donc, quels sont les principaux obstacles à la représentation et à l'accès des lesbiennes à la représentation, à la production de films tout au long du XXe siècle?
Ben, c'est toujours pareil, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Je pense que déjà, comme pour les femmes en général, il y a le sexisme en fait. C'est difficile, souvent quand je présente des films, les gens me demandent souvent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réalisatrice, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentation. Alors déjà, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'en fait, l'histoire les a effacées, souvent. Et au-delà de ça, quelles possibilités elles avaient ces femmes d'accéder à des métiers de réalisation? Dorothy Asner, par exemple, c'est une personne qui a une expression de genre qui est très masculine, qui est butch. Je me pose la question de savoir si une personne lesbienne femme aurait pu avoir la même carrière qu'elle à Hollywood. Je sais pas. Je pense qu'il y a un truc aussi qui mettait probablement à l'aise les hommes autour d'elle. C'était l'assistante d'un réalisateur qui est très connu, qui s'appelle Cecil B. 2000, qui est très connu pour l'époque d'Hollywood. Et elle a commencé comme ça, comme assistante. Donc, je pense que en termes d'obstacles, il y a déjà premièrement celui-là, il y a le sexisme. Et puis, il y a aussi aux États-Unis quelque chose qui est assez particulier, qui est le codeïs. En fait, moi, c'est quelque chose que j'essaye de rappeler aussi souvent aux gens quand on me dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentation, pourquoi est-ce que les représentations sont absentes. En fait, il y a une réponse à ça, c'est des lois, en fait. C'est une interdiction de représenter les personnages LGBTQIA+, ou alors une autorisation à les représenter que sous certaines conditions, à savoir le fait que qu'il puisse pas y avoir de happy ending, en fait, que les personnages LGBT au cinéma soient supprimés des scénarios ou meurent. Enfin, ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup produit à cette époque-là, en tout cas.
Toi, Sophia, tu es experte aussi de nos représentations, mais tu es aussi réalisatrice et vidéaste. Est-ce qu'il y a des personnes de cette ère pré-âge d'or lesbien que tu aimes particulièrement, qui t'ont inspiré, qui te semblent importantes?
On parlait par exemple du code Hays. Moi, je sais qu'il y avait un cinéaste que j'aime beaucoup. Alors, c'est un homme et c'est plus des représentations d'homosexualité masculine, mais je crois que c'était Billy Wilder, si je ne me trompe pas, qui était assez fort justement pour jouer avec ces contraintes-là et qui a fini un de ses fameux films. Je crois que c'est certains même chose, mais je suis plus sûr, peut-être que je confonds des fois les titres, mais où il y a un personnage un peu transféminin, gay-coded, le film se finit sur une blague là-dessus et tout. C'est vrai que c'est des films comme ça, quand tu vois comment il joue avec ses représentations, moi, c'est des films qui m'avaient vachement marqué quand je les avais vus. Voilà, après, sur la question lesbienne spécifiquement, j'aurais pas beaucoup de réponses, je crois, mais peut-être après des films avec des personnages féminins un peu forts ou c'est pas dit qu'elles sont lesbiennes, mais moi je pense en tant que lesbienne, j'arrive à m'y retrouver aussi dedans un peu. Mais ouais, j'ai pas d'exemple là tout de suite en tête.
Oui, bah comme tu soulignais, il y avait pas l'air d'avoir grand chose non plus.
Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait un peu plus de représentations et de lesbiennes qui prennent la caméra en main, donc à partir des années 90 avec Barbara Hammer. Qu'est-ce qu'on entend du coup derrière le terme âge d'or du cinéma lesbien?
En fait, moi, c'est une époque que je trouve fascinante et vraiment touchante. Parce qu'il y a un espèce d'alignement des planètes à ce moment-là qui est un peu fou. C'est-à-dire que, et ça va pas, enfin, au début, vous allez vous dire où est-ce que j'en viens, mais en fait, on est en pleine crise du VIH et en fait, les lesbiennes se rencontrent à ACT UP. Toutes les réalisatrices de cette époque-là militent à ACT UP et se rencontrent là-bas. Et ce qu'elles racontent souvent, c'est qu'en fait, elle cherchait à s'engager de manière militante et elle cherchait à défendre des causes qui leur tenaient à cœur. Et évidemment, cette lutte-là leur a paru essentielle. Et aussi, elles avaient envie de se rencontrer, en fait. Pour beaucoup, ce dont elles témoignent, c'est qu'elles connaissaient pas ou peu de lesbiennes dans leur entourage. Et en fait, elles cherchaient à se rencontrer et à partager leur vécu entre elles. Et c'est au sein d'ACT UP et de cette lutte-là qu'il y a des liens qui vont se créer. Et en fait, dans les années 90, à cette période-là, on est sous le mandat de Ronald Reagan, qui ne prononcera jamais le mot de VIH dans aucun de ses discours. Il se passe aussi des répressions extrêmement violentes contre les personnes LGBTQIA+. En 86, il y a un arrêté qui est voté au Texas qui s'appelle l'arrêté Bower v. Hardwick, qui est un arrêté en fait qui criminalise. Alors c'est hyper hypocrite parce que évidemment l'identification des personnes est neutre dans la manière dont cette loi est écrite, mais c'est un arrêté qui criminalise les rapports sexuels anaux et oraux. Et ce qui va déclencher beaucoup de manifestations LGBTQIA+ contre cet arrêté, c'est qu'il y a des flics qui vont suivre un couple d'hommes gays jusque chez eux et défoncer la porte de leur chambre à coucher, les surprendre, en train d'avoir un rapport sexuel et les arrêter. Donc évidemment, la grande hypocrisie, c'est que personne ne va aller défoncer la chambre à coucher des couples hétérosexuels américains pour vérifier s'ils n'ont pas ces pratiques. Et donc on est dans ce contexte-là, qui est un contexte de grande violence où la communauté LGBT... est en train de vivre l'épidémie du VIH. Et moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment beau et fort. Et là, quand je vais le dire comme ça, ça va paraître absurde, mais ça va se connecter un peu après. C'est qu'il y a une invention technologique à ce moment-là. C'est que Sony invente le caméscope, le magnétoscope et les cassettes Betamax. Donc en fait, à un moment où il y a une communauté de personnes minorisées qui est en train de lutter contre une épidémie qui est en train de les décimer, on a une invention technologique qui, en fait, permet de faire archive, qui est relativement accessible. Enfin, les réalisatrices de cette époque-là, quand elles parlent dans des interviews, elles avaient des jobs alimentaires. Enfin, c'est pas des personnes qui étaient... C'était accessible, en tout cas, d'acheter ce matériel-là. Un matériel qui permet de filmer, de faire de la vidéo légère, mais aussi de diffuser les films. Donc, en fait, à partir du moment où on a une télé et où on a acquis un caméscope comme ça et un magnétoscope, on est sur une économie de films où on peut à la fois filmer et projeter et donc diffuser des images. Et en fait, ça va avoir une grande importance pour cette génération-là. Un autre truc qui est très important, c'est que en 81, il y a les premières chaînes câblées qui apparaissent aux États-Unis et il y a une chaîne qui va être très importante en termes de représentation pour la communauté LGBT, c'est Showtime, puisqu'entre 2000 et 2004, Showtime diffuse Queer as Folk, qui est une série qui est entièrement dédiée à des personnes gays. Les personnages principaux, c'est un couple, enfin c'est un groupe d'amis gays. Et ensuite, Showtime va également produire The L Word, donc qui est en fait une série au sein de laquelle les réalisatrices de cette époque-là, qu'on désigne comme l'âge d'or du cinéma lesbien, vont continuer de travailler, en fait. Il y a une poursuite pour elles qui est possible, notamment avec The L Word en 2000.
Pour revenir un peu à cet âge d'or du cinéma lesbien, Sophia, dans ta définition du cinéma lesbien, c'était très beau et tu parlais beaucoup que c'était pas juste qu'il y ait des lesbiennes à l'écran ou des lesbiennes derrière la caméra. Selon toi, qu'est-ce qui est très caractéristique à ces films des années 90 dans la manière dont on va montrer et raconter nos vécus?
Je saurais pas dire, je suis pas spécialiste de cette époque-là particulièrement. Moi, je sais qu'un des films de cette époque qui m'a marqué, c'était Bound, notamment.
Bah, tu peux nous en parler.
Ouais, que j'avais trouvé. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais que j'avais trouvé assez incroyable sur sa représentation de dynamique butch femme de l'époque et sur sa représentation du bar lesbien aussi. Il y avait quelque chose qui m'avait vachement ému là-dessus, que j'avais trouvé assez fort, qu'on voit moins, je trouve, dans la culture lesbienne, dans le cinéma actuel. J'ai l'impression que les récits lesbiens sont pas autant connectés à cette idée de communauté aussi et de groupes militants collectifs.
Laurine, vas-y.
Ouais, peut-être que je peux rebondir sur Bound. Je l'ai vu cette semaine, du coup, pour préparer l'émission. Je l'ai trouvé assez incroyable. Moi, je savais pas non plus que c'était le premier film des sœurs Wachowski. Il est assez incroyable, moi, je trouve, dans sa manière de représenter ce que tu dis bien, Sophia, les dynamiques butch femme, mais aussi dans sa manière de vraiment de se moquer du film de mafia, quoi. Il y a un truc, vraiment une volonté de ridiculiser la masculinité toxique. C'est assez intéressant parce que du coup, on a deux personnages dans le film qui sont Gorky, qui est une plombière qui sort de prison, et Violette, qui est une personne qui relationne avec un mec mafieux et qui est sa voisine. Et en fait, il y a cette manière comme ça de donner la place au personnage femme qui contredit complètement les scénarios de films de mafia où les femmes sont la plupart du temps des faire-valoir. En fait, là, vraiment, tout l'enjeu du film et tout l'enjeu thriller du film repose complètement sur la capacité du personnage de Violette à emmener l'action. Elle est vraiment au centre du film. Et c'est aussi un film qui, à mon sens, s'oppose complètement au cliché de la méchante lesbienne, puisque je vais rien spoiler, mais si vous avez vu Bound pendant un peu tout le film, on se dit « Ah ok, en fait, est-ce qu'elle va trahir cette meuf qu'elle vient de rencontrer ?» Et bon, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est un chouette film que je trouve vraiment intéressant aussi formellement, quoi.
Pour un peu étoffer, là on vient de citer Bound, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres titres de films ou d'autres noms de réalisatrices importantes de cette époque ?
Oui, bien sûr. Ben, du coup,
même
moi...
si ça fait un peu liste comme ça pour que nos auditeurs puissent avoir un peu
non,
une idée.
Non, mais c'est important les listes. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces films et tout. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, à cette période, c'est que c'est une période qui est d'une grande richesse, quoi. On a quasiment un film à caractère lesbien qui sort par an. Et franchement, c'est des films qui sont vraiment qualitatifs sur le plan esthétique. Et qui contredisent comme ça totalement cette histoire de la violence qui a été précédemment celle assignée aux personnages LGBTQIA+. Je pense à... En 1985, il y a un film qui s'appelle Desert Art de Donna Deitch, qui est une adaptation littéraire. Je ne me souviens plus comment s'appelle l'autrice. C'est un très beau film, Desert Art. Moi, c'est un film qui me touche beaucoup parce qu'il ouvre comme ça cette décennie-là. Pour moi, c'est un peu le film qui ouvre... cet âge d'or-là. Il y a Cheryl Donahue aussi, qui est une réalisatrice noire américaine qui réalise des courts-métrages dans ces années-là. Je pense à Vanilla Sex, à She Don't Fade, et qui va réaliser en 1996 The Watermelon Woman. Il y a Go Fish de Rose Troch, qui est un film qui est vraiment très important pour cette époque, pour des raisons que je développerai un petit peu plus après. Mais en vrai, on pourrait consacrer une émission entière à Go Fish, tellement il y a des choses à dire. Moi, il y a un teen movie que j'aime énormément, qui est vraiment très beau et très doux, qui s'appelle, le titre long, c'est The Incredibly True Adventures of Two Girls in Love, de Maria Magenti, mais qui est souvent raccourci en Two Girls in Love, qui est un teen movie dans lequel la personne qui joue Tina dans The L Word joue une petite butch. Elle est vraiment adorable. Enfin,
et d'ailleurs, c'est... elle aurait dû être une butch dans The L Word parce que ça lui va vraiment bien.
C'est clair que ça lui va hyper bien. Enfin, c'est, on est... Moi, je ne l'avais pas reconnue au début et quand j'ai capté que c'était elle, je me suis dit « waouh, ok ». Et je pense aussi, moi, pour moi, un des films qui termine un peu cette période-là et qui est vraiment... Enfin, hyper jouissif et toujours hyper agréable à regarder, c'est But I'm a Cheerleader de Jamie Babbitt, qui est vraiment hyper, hyper drôle, quoi.
Sophia, tu veux dire un mot sur But I'm
a
Cheerleader ?
Ouais, je pensais à ça aussi. Que j'avais, moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, que j'aimais beaucoup la, même la photographie, le travail de décor, le casting avec RuPaul qui apparaît au milieu et qui est incroyable. Et non, c'est un film que j'avais trouvé trop beau sur comment l'amour lesbien, c'est aussi un truc qui nous aide à survivre dans des environnements qui sont hostiles et tout. Moi, c'était un film qui m'avait vachement touché. Ouais.
Moi, il y a quelque chose, justement, tu parles de la direction artistique de But I'm a Cheerleader, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, notamment dans les films un peu plus expérimentaux du début de cet âge d'or avec Barbara Hammer, et même si on va dans les prémices avec des réalisatrices comme Maya Deren, par exemple. En fait, ces films lesbiens, ils sont souvent justement marqués d'une esthétique extrêmement forte, de récits qui parfois sont, dont le montage n'est pas forcément linéaire, et je me demandais pourquoi il y avait ces partis pris esthétiques-là qui détonnaient beaucoup du paysage cinématographique un peu général, Laurine ?
Je pense que ça tient à cette économie du cinéma underground. Enfin, dans cet espace-là, l'espace du cinéma expérimental ou l'espace du cinéma underground, il y a une plus grande liberté de faire ce qu'on a envie de faire, puisqu'on n'est pas en train de se confronter à des majors, on n'est pas en train d'essayer de faire produire ces films par Pathé, Gaumont ou Goldwyn Mayer aux États-Unis. Et du coup, ça fait que les réalisatrices, je pense, ont une plus grande liberté d'un point de vue esthétique et formel. Queer, si on traduit en français, ça veut dire tordu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est commun à cette définition-là et à celle du cinéma expérimental. C'est que, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle il y a autant de femmes. En fait, il y a énormément de... Les femmes sont surreprésentées et les personnes queer sont surreprésentées dans les domaines du cinéma expérimental et dans les domaines du documentaire. Et pour le cinéma expérimental, je pense qu'il y a cette idée qui est commune qu'une image expérimentale, c'est souvent une image qu'on vient travailler physiquement au risque de la détruire. C'est une image qui porte un peu en elle, comme ça, la possibilité de sa perte. Mais c'est aussi la seule manière... De faire émerger des choses et des images qui sont fortes. Moi, j'y vois quelque chose d'un peu commun avec ce geste de se réapproprier le stigmate, de rire des violences. Enfin, on parlait de Beau Time de cheerleader, c'est vraiment un film qui se moque des thérapies de conversion, en fait, qui tourne complètement en ridicule les thérapies de conversion. Et tu parlais de Maya Deren tout à l'heure. Maya Deren, elle a beaucoup inspiré Barbara Hammer. Barbara Hammer, elle raconte souvent que Maya Deren, c'est la seule réalisatrice dont on lui a parlé pendant ses études. Et en fait, là, j'ai vu quelques films de Maya Deren pour préparer l'émission. Et en fait, j'en avais vu quelques-uns à la fac, mais je me souvenais pas. Et là, en les revoyant dans ce contexte-là, je me suis dit, OK, c'est assez dingue, en fait. Il faut remettre en contexte que Maya Deren, du coup, c'est une réalisatrice qui a réalisé dans les années 30-40. Elle était bisexuelle, elle était en couple avec un autre réalisateur qui s'appelle Alexander Hamid et qui l'a beaucoup aidé à réaliser, notamment, enfin, qui l'a accompagné, mais qui a pas pris toute la place. Enfin, il apparaît à quelques moments dans ses films, mais il y a vraiment ce truc où Maya Deren, elle réalise, elle produit, elle est vraiment au centre de sa création. Et ce que moi, je trouvais assez bouleversant et pour l'époque assez incroyable en termes de remise en cause du male gaze, c'est que dans un film, par exemple, comme Atlan, c'est un film expérimental où on la voit... c'est un peu compliqué à décrire comme ça avec des mots, le cinéma de Maya Deren, comme c'est expérimental. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'elle est au centre du film et son corps est vraiment le moteur du montage et du mouvement. Donc on a cette idée comme ça qu'on a une femme qui est la personne qui va dicter absolument tout ce qui va se passer dans le film. Et c'est quelque chose qui n'arrive jamais, en fait, à cette époque-là. Enfin, Maya Deren, elle réalise en même temps qu'il y a Blanche-Neige de Walt Disney qui sort. Enfin, ce qui est qu'on est en plein âge d'or d'Hollywood, en fait. Du coup, c'est assez dingue de faire le parallèle entre ces deux choses.
Oui, moi, je pense aussi qu'il y a un truc dans le fait d'être lesbienne ou homosexuelle ou LGBT d'un vécu de marge un peu par rapport au monde. Et ça fait qu'on a toujours aussi potentiellement plus facilement un regard qui est décalé, mais qui du coup aussi décalé sur la forme, décalé sur le point de vue. Et le point de vue au cinéma, c'est tout ce qui fait la forme. Donc c'est moi aussi, je pense qu'il y a un truc qui vient un peu de là dans les trucs qu'on arrive à proposer. Moi, je pense un peu avant l'âge d'or, je pense à Chantal Akerman, par exemple, qui était une cinéaste lesbienne qui a beaucoup joué avec la forme et qui a été très, très importante dans l'esthétique du cinéma, enfin, qui a influencé des cinéastes jusqu'à La Zone d'intérêt récemment, qui reprend beaucoup des principes formels qu'elle a inventés. Et je pense même aussi à Agnès Varda, qui était une cinéaste bisexuelle, qu'on dit aujourd'hui qu'elle est un peu à l'origine de la nouvelle vague et qu'elle a un peu participé à inventer cette forme de cinéma qui a bouleversé aussi la forme, quoi. Donc, je pense qu'il y a un truc qui vient aussi pour moi de ces vécus-là et de comment on voit le monde, parce que le monde nous a mis à une place un peu particulière.
Eh ben, merci beaucoup pour ces premiers échanges passionnants.
Et avant d'enchaîner, on va écouter Pink Pony Club. C'est la chanteuse américaine Chapel Rowan, a.k.a. la nouvelle obsession musicale de notre chère Inès. Encore une. Pink Pony Club, c'est une ode au bar gay qui vous donnera, on l'espère, envie de chausser vos plus belles Santiago pour danser de tout votre soul sur les tables mouillées d'un bar un peu miteux. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong down.
On accueille à présent la chronique de l'AJL, l'Association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Lila, bienvenue à toi.
Merci. Bonjour tout le monde. Alors, Roland-Garros, le tournoi de tennis sur terre battue qui dure jusqu'au 9 juin à la Porte d'Auteuil à Paris, a commencé hier. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de parler d'un de mes sujets favoris. Une idée ?
Les chats ?
Alors non, pas les chats, mais les lesbiennes.
Ah.
Et particulièrement les lesbiennes dans le tennis. Et on va commencer par un petit quiz. En janvier 1999, la joueuse de tennis d'origine suisse Martina Hingis, numéro 1 mondiale, a déclaré ceci à propos d'une autre compétitrice lors d'une conférence de presse à l'approche de la finale de l'Open d'Australie. Je cite « Je sais qu'elle est venue ici à Melbourne avec sa petite amie. En fait, elle est à moitié homme. » Bonne ambiance. Même lieu, par Lindsay Davenport cette fois-ci, joueuse de tennis américaine qui vient d'être éliminée en demi-finale. Je cite « Parfois, j'avais vraiment l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, si dur, elle a l'air si costaud, elle a de telles épaules. » Fin de citation. De qui parlait-elle ? Petite idée, bon. D'Amélie Mauresmo, première joueuse de tennis française à avoir fait son coming out quelques jours plus tôt. La presse australienne en fait la une, ça fait vendre, et Mauresmo se prend un shitstorm bien lesbophobe. Et si Amélie Mauresmo était en fait un homme ? Bah oui, elle aime les femmes, et elle a des épaules dites masculines. C'est QFD. Mais en même temps, elle s'affiche publiquement, elle fait la couverture de Tétu ou encore de Paris Match, où elle pose avec sa compagne. Et c'est surtout une première dans le sport français, et donc bravo Amélie.
Et dans le monde du tennis ?
Eh bien, pour ce jeu individuel à la réputation bourgeoise, c'est surprenant et c'est souvent oublié, mais des joueuses ont tracé la voie pour toutes celles d'après, bien avant Amélie Mauresmo. Douloureusement, bien évidemment, dans un monde de compétition, d'image et d'argent. Deux des plus grandes stars du tennis ont fait leur coming out en 1981, l'une quelques mois après l'autre. Billie Jean King et Martina Navratilova. Tous les enfants des années 70 les connaissent. Billie Jean King, américaine, aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, 129 titres dont 12 grands chelems en simple, se fait outer à 37 ans par une ex. Son attaché de presse dément, mais elle veut dire la vérité. Ce qu'elle fait d'ailleurs, en conférence de presse, alors que son mari est dans la salle. C'est la première sportive au monde à faire son coming out. Et si elle est soutenue par la présidente de la Women Tennis Association, qu'elle a fondée d'ailleurs en 1973, elle perd quand même ses sponsors et des milliers de dollars. Une autre joueuse, Martina Navratilova, dénonce la chasse aux sorcières homosexuelles qui s'annonce dans le monde du tennis. La jeune Tchécoslovaque dit son soutien à King à un journaliste, lui confiant sa bisexualité. Elle vit alors en Virginie avec Rita Mae Brown, une autrice militante des droits LGBTQIA+. Mais elle lui avoue aussi, aux journalistes, ne pas se sentir en mesure de l'admettre publiquement. Elle a peur que le tennis féminin en pâtisse, mais surtout, elle a peur que ça lui porte préjudice pour obtenir la citoyenneté américaine qu'elle demande. Et dès qu'elle l'obtient, le journaliste publie l'info. C'est un tremblement de terre dans le monde du tennis. Les deux joueuses paient le prix d'être des pionnières. Martina est tournée en dérision, comme la transfuge communiste, l'Amazone lesbienne qui domine le circuit. Mais la voie révolutionnaire est tracée. Les deux se battront activement toute leur carrière, puis toute leur vie pour les droits des personnes LGBTQIA+. Billie Jean King reçoit d'ailleurs en 2009 la plus haute distinction civile américaine, décorée par Barack Obama.
Et alors, aujourd'hui ?
Alors, si vous voulez voir des lesbiennes jouer à Roland-Garros, c'est encore possible. Pour n'en citer qu'une, il faut parler de Daria Kasatkina, 11e joueuse mondiale, qui a fait son coming out en 2022. Numéro 1 du tennis féminin russe, elle en a profité pour dénoncer l'homophobie d'État dans son pays, donc respect. Et je termine en rappelant qu'à Roland-Garros, il y a le célèbre court Philippe Châtrier et le court Suzanne Lenglen, elle aussi grande championne, 6 fois heureuse finaliste à Wimbledon. Elle, qui a plus ou moins inventé le tennis moderne, avait une vie sentimentale hyper médiatisée. Mais une liaison a un peu échappé à tout le monde, celle entretenue avec Didi Vlasto, numéro 1 française en 1926, et qui était accessoirement sa partenaire de double. Voilà un des extraits qu'on a retrouvé, celle-ci envoyée par Suzanne Lenglen, date de juillet 1932. « Ma chérie, la lettre m'arrive ce soir et je réalise à quel point je suis impardonnable de ne pas t'avoir envoyé de télégramme pour te l'annoncer. » Elle part de sa rupture. « Tu sais le plaisir que j'ai à faire avec toi des choses extravagantes et amorales. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Et encore plus quand tu m'écris des lettres aussi délicieuses. »
Merci beaucoup pour cette chronique, Lila. Tu vas me faire m'intéresser au tennis, qui est un exploit de taille.
De salle de ambiance.
On retrouve la JL le mois prochain pour une nouvelle chronique analysant le traitement médiatique des personnes LGBTQIA+. I have a tattoo. Would you like to
see it? En 2019, sortait Portrait de la jeune fille en feu. Le film connaît un bon succès, des critiques comme du public, y compris à l'international. Et il y a donc un public pour le cinéma lesbien. Pourtant, Love Lies Bleeding, en salle ce mois-ci, a peiné à trouver un distributeur en France et finit enfin par sortir deux mois après sa sortie internationale. Ça pose donc la question, quels sont les obstacles qu'il y a aujourd'hui entre le cinéma lesbien et un public qui semble pourtant réceptif ? Sophia ?
Ouais, pour moi, la question de la représentation, c'est aussi la question de la production. Et j'ai l'impression qu'un des obstacles qui existent, en tout cas, enfin moi qui essaie d'écrire des scénarios, qui ai des amis qui écrivent aussi et tout, c'est souvent un obstacle qu'on a, c'est que quand on écrit des récits lesbiens ou des récits qui ne centrent pas du coup les hommes à l'intérieur, souvent on va nous demander d'en rajouter, qu'il y en ait plus. J'ai récemment, c'est Iris Bray qui a réalisé une série pour France TV Slash qui s'appelle Split, dans laquelle une actrice tombe amoureuse de sa cascadeuse pendant un tournage. Et je sais qu'elle avait raconté, il me semble, qu'on l'avait obligée à accentuer le rôle du personnage masculin qui sort avec une des meufs au début et à accentuer sa backstory et tout. Et du coup, je trouve d'ailleurs que ça se voit dans la série qu'il y a ce côté un peu artificiel de ce personnage masculin qui prend beaucoup de place. Et c'était un truc qu'on l'avait imposé. Donc je pense qu'il y a aussi un truc de qui décide et qui a l'argent et qui produit les films aujourd'hui et qui les distribue. Parce que c'est des gens qui n'ont pas, ben, soit ce regard lesbien, soit qui n'ont pas, enfin, qui ont toujours, en tout cas, cette impression que le public a besoin d'avoir des personnages masculins forts et des hommes pour qu'on s'identifie ou pour qu'on rentre dedans. Parce que sinon, c'est pas intéressant, quoi.
Est-ce que Laurine, tu veux compléter ?
Oui, carrément. Peut-être d'abord, concernant Portrait, la communauté lesbienne a été évidemment enchantée du film, mais je me souviens que la critique française a été très dure à l'endroit de Céline Sciamma, et particulièrement à un endroit, moi, que je trouve intéressant, où le reproche qu'on lui a fait, c'est qu'on a dit que c'était un film froid oui, et qu'elle ne savait pas filmer le désir.
C'est un des films les plus érotiques que j'ai vu de ma vie, je trouve. Enfin, genre, vraiment,
je suis hyper d'accord. Et je pense que ça tient vraiment à ce truc de... évidemment que les vieux mecs, ça passe totalement dehors de leur radar. Quoi. C'est un film qui est vraiment un film qui déconstruit totalement le male gaze et qui invente un autre regard. Enfin, les personnages le disent dans le film, on invente un langage quand on tombe amoureux. Et je pense que Céline Sciamma, à cet endroit-là, elle invente aussi quelque chose, mais elle invente quelque chose qui n'est pas dénué d'histoire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment conscience d'une histoire du cinéma lesbien. C'est un film qui parle du manque, qui parle de l'absence, qui parle de l'intensité amoureuse. Et je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, Sophia. Quand j'ai vu Split, il y avait aussi un documentaire qui l'accompagnait sur France TV Slash, qui parlait notamment de la collaboration avec la coordinatrice d'intimité, qui s'appelle, je crois, Paola Garcia Martens, et dans ce documentaire...
Est-ce qu'on peut juste dire ce que c'est une coordinatrice d'intimité ?
Ouais, bien sûr. C'est un métier qui est de plus en plus en train de se démocratiser au cinéma, et c'est super. C'est une personne qui accompagne les actrices sur les plateaux pour coordonner les scènes d'intimité. C'est-à-dire que, si c'est une question qui vous intéresse, je pense que ce documentaire est encore sur France TV Slash, et... on voit comme ça tous les moments où Alma Jodorowsky et Jenny Beff ont été accompagnées sur cette question-là. Donc on les voit avoir des discussions ensemble sur qu'est-ce que c'est l'intimité pour elles. On les voit avoir des scènes où elles décident d'avoir du contact physique, où elles posent des limites, où elles se disent « bah là, je veux bien que tu m'effleures le bras, je veux bien que tu me touches à des endroits ». L'idée, c'est vraiment de construire de l'intimité avec sa partenaire de jeu et de chorégraphier ça, en fait, de construire ça. Parce qu'il y a cette vieille idée hyper sexiste qui est que juste les scènes de sexe au cinéma, ça devrait arriver comme ça, en un claquement de doigts, parce que tout le monde sait faire, alors qu'en fait, c'est complètement absurde. Enfin, il y a une actrice qui en parle dans le documentaire qui dit « Moi, dans les films auxquels j'ai participé, mes scènes de cascade sont chorégraphiées, mes scènes de sexe ne sont pas chorégraphiées. Souvent, dans le scénario, il y a une ligne qui dit « Ils font l'amour ». Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que c'est ? Et je me suis perdue parce que je disais
plein
de trucs.
Oui, mais des fois, c'est même pas écrit. Je me souviens que j'avais vu un témoignage sur le tournage du dernier tango à Paris, par exemple, où il y a une scène de viol qui est très connue et qui n'est en fait pas dans le scénario original, ouais. Quoi, qu'ils ont tourné le jour même, et où l'actrice a vraiment été violée d'ailleurs dans le film et tout. Donc, il y a un vrai problème avec ça. Et puis moi, l'obstacle aussi, je parlais de la production, mais c'est aussi le fait que le cinéma, c'est un milieu d'hommes et que c'est eux qui ont le pouvoir. Et je pensais récemment à une interview qu'avait fait Cate Blanchett où elle se plaignait elle-même de dire que quand elle arrivait sur un tournage où il y avait 40 personnes sur le plateau, il y avait genre 3 femmes, que c'était tout le temps comme ça. Forcément, du coup, les récits lesbiens ont peu de place quand on est entouré d'hommes dans ce milieu, quoi.
Carrément. Et si je peux rebondir par rapport à Love Lies Bleeding, il y a une petite polémique là sur Instagram qui, pour moi, rejoint vraiment... cette question-là de pourquoi ce film il a peiné à trouver des distributeurs. Il y a un film belge dont j'ai oublié le nom qui va sortir là bientôt. Et il y a un internaute sur Instagram qui comparait l'affiche, donc l'affiche belge. Sur l'affiche belge, donc ça a l'air d'être une histoire d'amour gay. On voit deux hommes d'environ 50 ans se rouler une énorme pelle. Et sur l'affiche française, je pense qu'on a pris le photogramme d'avant ou d'après le baiser. Et on voit ces deux hommes face à face qui ne se touchent pas, qui sont loin l'un de l'autre. Donc en fait, il y a aussi, c'est exactement ce que tu dis, Sophia, si ce sont des hommes hétérosexuels, cisgenres, ou des personnes qui sont LGBT-phobes qui prennent ces décisions-là, en fait, une affiche, c'est ce qui donne envie aux gens d'aller voir un film, c'est ce qui va être affiché dans la rue. Et en fait, là, le message que ça envoie, c'est que ce serait pas possible en France d'afficher dans la rue des images de personnes LGBT qui s'embrassent. Et pour Love Lies Bleeding, il y a eu aussi une grosse polémique. Je me souviens plus du nom de ce festival, mais il y a eu une séance horrible à Bruxelles, oui, il n'y a pas très longtemps, où il y a juste eu un déferlement de haine lesbophobe dans la salle. Et le festival n'a rien fait. En fait, les employés du festival, les personnes qui travaillaient pour le festival n'ont pas sorti les gens qui étaient en train d'insulter les personnes LGBT qui étaient dans la salle. Il y a des personnes qui sont sorties parce qu'elles se sentaient vraiment mal.
Ils ont même appelé la police contre les lesbiennes qui manifestaient parce qu'elles étaient soi-disant violentes. Et... ouais, c'est le festival de films fantastiques à Bruxelles. Ouais,
ok.
Et le festival a par la suite fait un communiqué où le festival se désolait d'une part des commentaires lesbophobes de son public, mais d'autre part, comme si c'était tout aussi grave, de la violence verbale, je mets des guillemets, de la part des spectatrices lesbiennes qui ont quitté la salle alors qu'elles étaient en train de regarder un film qui parlait d'elles. Et bah, les personnes qui sont restées, c'est les hommes. Et donc, il y a eu cette mise au même niveau de la part du festival. C'était le second communiqué. Donc, vraiment, il n'y avait aucune prise en compte, effectivement, de ça. Est-ce que, du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut considérer que l'âge d'or du cinéma est définitivement terminé ?
Du cinéma lesbien ?
Ouais.
Ouais, je ne sais pas, Laurine, ce que tu en penses.
Je ne sais pas, j'espère que non. Enfin, la période dont je parlais tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, des années 90, elle est un peu bornée historiquement parce que, d'ailleurs, on n'a pas vraiment dit quelles étaient un peu les caractéristiques de ces films-là. Je peux peut-être revenir dessus.
Bien sûr.
C'est des films qui, moi, à mon sens, sont vraiment beaux et bouleversants parce qu'ils déconstruisent comme ça toute une histoire du cinéma qui a, par le passé, été violent, on l'a dit, à cause du codex, en fait, parce qu'il y avait des lois qui empêchaient et les personnes concernées et les personnes non concernées, d'ailleurs, de représenter des personnages LGBTQIA+, au-delà de cette limite de représentation de, bah voilà, l'arbre qui tombe sur les lesbiennes, ça c'est un vrai trope narratif. Il y a vraiment eu une époque au cours de laquelle il y a plusieurs films dont le trope scénaristique, c'est qu'il y a toujours un arbre qui finit par tomber sur le personnage lesbien et elle meurt, quoi. Ce qui fait qu'en fait, en termes de scénario, en termes de rapport au temps, tout le monde est en mode survie, quoi. Les personnages comme les spectatrices concernés, parce qu'on a peur de voir ces schémas-là se reproduire au cinéma. Et au contraire, ces réalisatrices-là des années 90, moi, il y a quelque chose qui me bouleverse vraiment beaucoup, c'est que c'est des films qui mettent vraiment l'amitié et le collectif au centre. C'est des films dans lesquels le collectif et l'amitié soutiennent les histoires d'amour, leur permettent d'exister. Je pense à Go Fish, qui est vraiment un film de potes lesbiennes, en fait, où il y a vraiment ce truc de... Go Fish, ça donne vraiment envie de draguer, quoi. Ça donne confiance en soi. C'est vraiment un film qui est cool sur ça. Il y a vraiment un truc de cette bande d'amis lesbiennes qui vont accompagner leur pote qui a pas eu d'amoureuse depuis longtemps et où elles sont en mode « vas-y, tu vas y arriver ». Et à la fois, ça raconte cette histoire d'amour-là. Mais pour moi, le personnage central du film, c'est aussi l'amitié lesbienne. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi très fort, de manière vraiment touchante, dans Two Girls in Love, puisque le personnage de Randy, elle a été rejetée par sa famille, elle est élevée par sa tante qui est lesbienne. Et au début du film, il y a un peu ce running gag de l'ex de sa tante qui revient vivre sur son canapé. Et à un moment dans le film, la meuf de sa tante qui lui dit « mais j'en peux plus, en fait, tous tes ex reviennent vivre sur le canapé et tout ». Et sa tante lui dit « mais... » enfin, sa copine, du coup, la tante de Randy, lui dit « mais... » En fait, pour moi, cette maison sera toujours une maison ouverte et je veux que, en fait, aucune lesbienne ne s'inquiète de son sort, quoi. Genre, on se doit de s'accueillir, on se doit de se soutenir de la même manière qu'on a accueilli Randy et tout. C'est un cinéma qui est vraiment profondément joyeux, le cinéma de cette époque-là. C'est un cinéma qui est aussi à l'intersection de plusieurs luttes. Je pense au cinéma de Cheryl Donnelly, qui est vraiment un cinéma dont je pense la thématique principale, au-delà du lesbianisme, c'est vraiment l'antiracisme et la violence qui a été faite aux femmes noires dans le cinéma américain. Si vous n'avez pas vu The Watermelon Woman, je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'est un film qui est brillant sur cette question-là. Cheryl Donahue, elle se met en scène elle-même dans le film sous le nom d'un personnage fictif qui s'appelle Cheryl Donahue, donc voilà. Et elle réalise dans le film un documentaire sur une femme qu'elle appelle The Watermelon Woman, qui est en fait une actrice dont elle cherche le nom, et une actrice qui jouait au cinéma le rôle des mamies. Donc les mamies, c'est les rôles auxquels étaient assignés la plupart du temps, et même tout le temps, les actrices noires au cinéma pendant la période de la ségrégation. Donc des rôles de femmes qui sont au service domestique de couples de personnes blanches. Et en fait, Cheryl Donahue, comme ça, pendant tout le film, réalise un faux documentaire sur la figure de cette actrice dont elle cherche le nom, parce qu'en fait, ce qu'elle raconte et le point de départ de son indignation, qui est un fait réel, c'est qu'en fait, dans les films de cette époque, les noms des actrices noires qui jouaient ces rôles-là n'étaient pas crédités. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est encore extrêmement difficile de faire de la recherche sur cette question, parce qu'en fait, les noms des actrices ne sont même pas crédités, quoi.
Et aujourd'hui, enfin donc là, tu parlais de notamment d'arbres qui tombent sur les Gwyn. Aujourd'hui, c'est quoi les écueils qui persistent dans la représentation des lesbiennes à l'écran, Sophia ?
Ouais, j'ai l'impression qu'on arrive à une époque où c'est presque, enfin pas obligé, mais que ça devient un peu impossible de faire genre des séries ou inclusives ou sans mettre des lesbiennes. On peut plus se contenter de mettre juste l'ami gay. J'ai l'impression que dans les films, les gros films blockbusters et tout, les séries à la Netflix, les choses comme ça, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on pourrait presque dire qu'il y a plusieurs représentations aujourd'hui. En tout cas, c'est vachement plus courant, mais c'est pas toujours fait avec grande qualité, déjà parce que ce sont des personnages écrits par des hommes. Moi, je pense qu'il y a plein de films que je trouve super, mais où la représentation lesbienne, elle laisse toujours à désirer. Je sais que Yorgos Lanthimos, il adore mettre des lesbiennes dans ses films, mais je suis pas toujours au clair avec la manière qu'il a de les représenter. Même, je repensais aussi à Black Swan, qui avait été un grand moment de représentation aussi, et qui était tellement fétichisant, je trouvais, et très, enfin vraiment, le film s'était presque vendu sur les deux actrices qui vont baiser à l'intérieur et tout. Donc moi, il y a ce truc aussi où j'ai l'impression que les lesbiennes sont peut-être plus visibles parfois aujourd'hui, mais elles ont subi aussi les conséquences de la fétichisation, de toutes ces choses-là, d'être aussi des faire-valoir dans les récits hétérosexuels, notamment dans les séries Netflix, des choses comme ça.
Et bien du coup, il y a encore des choses à venir et à se transformer dans nos représentations. On peut s'en désoler, mais on peut aussi s'en réjouir. On retrouve à présent Nola pour faire un point météo et reco. Hello Nola.
Hello. Ça n'a échappé à personne. En ce moment, bon nombre d'entre nous bravent le pavé pour faire valoir nos droits. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être dans le cortège pour l'hétéronormativité. Je vous explique. Dans un mois, ma sœur se marie, une de mes meilleures amies aussi. Du coup, je passe mon temps à organiser des enterrements de vie de jeune fille et à rédiger des discours sur l'amour monogame et la fidélité. Comble du paroxysme, je suis allée à Disney pour le VJF de ma sœur. Vous savez, ce temple du capitalisme qui vous promet monts et merveilles si vous sortez vos billets. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Je comprends le concept de vouloir rêver et de s'extraire d'une réalité qui met notre hypersensibilité à rude épreuve.
Et c'est donc pour ça que tu as décidé de nous emmener dans le pays fantastique de la Gwynerie ce mois-ci.
Tout à fait. Et quoi de mieux que le mois de juin pour reprendre le contrôle de nos rues et montrer que le monde est bien plus beau quand nos paillettes coulent à flot. Parce que je veux entendre de « Elle est à qui la rue ? Elle est à nous !» Pardon, je me suis un peu laissée emporter.
À nous.
Je disais, les marches des fiertés ont déjà commencé. Les prochaines vont se tenir le 1er juin, dont celle de Dijon. À Brest, ce sera le 22 juin. Comme la marche radicale de Paris. Le 6 juillet, ça se passe à Marseille-Bébé. Et si t'as envie de faire un tour de France, le site gaypride.fr te les a répertoriés.
J'imagine que la fête ne s'arrête pas là.
À notre immense joie-bonheur, nombreuses de ces marches sont suivies d'une soirée où, normalement, il y a des protocoles de réduction des risques, sauf celui de retrouver son ex. Tu as notamment l'After Pride au Drac à Grenoble le 1er juin, ou la Dactopia et la Wet for Me, le 29 à Paris. À toi de viser juste pour plutôt tomber sur la go amulée sur qui t'a flashé.
Et si on n'aime pas trop les bains de foule ?
Tu peux t'évader dans des univers lettrés. Pour ça, je te recommande chaudement L'odeur des pierres mouillées de Léa Rivière, une ode au récit queer qui entremêle tradition et science-fiction.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas un épisode consacré à ce livre ?
Et si, si tu préfères écouter des interviews de gens super stylés raconter leurs œuvres, notre consoeur Camille a discuté du monde enchanteur de Léa Rivière dans un épisode de notre émission Sœur avec la langue. Donc n'hésite surtout pas à aller l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute en libre accès. Oui, je nous fais de l'autopromo, ça mange pas de pain, surtout quand c'est vraiment bien.
Ok, on a de quoi lire et écouter. As-tu quelque chose à regarder ce mois-ci ?
Absolument. On en vient d'en parler, il y a un thriller lesbien sous stéroïdes qui sort le 12 juin. Tu dois très certainement savoir de quoi je parle si, comme moi, ton algorithme Instagram n'a pas pu s'empêcher d'inonder ton écran des photos de Kristen Stewart et Cathy O'Brien pour la promotion du film Love Lives Bleeding. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais une de mes infiltrées m'a dit que si ton kink, ce sont les veines apparentes sur des corps musclés lesbiens avec des scènes de sexe à faire transpirer ton siège, c'est assurément le film que tu dois aller voir. À noter qu'il y a tout de même des scènes de violence, donc sensible à te tenir. Mais toi-même, tu sais, il y aura forcément une compilation YouTube des scènes où Kristen et Cathy ne font pas que déambuler dans un univers délicieusement années 80, loin l'une de l'autre. Tu pourras ainsi t'en délecter au fond de ton canapé.
Merci beaucoup, Nola, pour ces recommandations.
Et tout de suite, on écoute Freedom de l'artiste égyptienne Felouka, un morceau dédié à la lutte palestinienne contre l'oppression coloniale israélienne. D'ailleurs, pour soutenir concrètement les Palestiniennes et Palestiniens, on vous renvoie au répertoire de Kanyot Gazaoui compilé par la photographe Mec Da Vinci sur Instagram. Et pour finir, on vous encourage à aller checker la programmation du festival Ciné-Palestine qui mettra en avant les voix du cinéma palestinien du 30 mai au 16 juin à Paris et Marseille.
Yeah, yeah, check, check, From the river to the sea, Palestine will be free. Clap your hands and stomp your feet if you're rewriting history. I don't give a about the media. Question what you see. Western narratives perpetuate the colonizer's dream. I'm trying to start a conversation. Let's end the occupation. How you want to steal the land and not expect retaliation.
Ah, on me parle dans l'oreillette. Allô, oui? Allô, Gouinement Lundi? Ah, c'est l'heure des petites annonces de Gouinement Lundi. C'est parti.
Allô ? Allô, Gouinement Lundi ? Les petites annonces de Gouinement Lundi, tous les quatrièmes lundis du mois, sur Gouinement Lundi.
Lesbienne de 21 ans, recherche idéalement sur Paris ou alors à Saint-Dié-des-Vosges, très random, recherche une autre fille pour poser pour des dessins.
Salut, je suis Eva, je suis responsable événementielle de l'association Saint-Denis LGBTQ+. On organise à partir du 16 mai jusqu'au 2 juin la quinzaine des fiertés avec la ville de Saint-Denis. Donc si ça te dit de venir à nos tables rondes, lectures, bals populaires, rassemblement ou autre ciné queer, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, Saint-Denis LGBTQI+. Merci.
Je m'appelle Hélène, j'ai 35 ans et j'habite à Meudon. Je cherche une fille lesbienne pour entrer en relation avec moi, de préférence dans une relation assez libre. Je souhaiterais qu'elle soit intéressée par l'art. Voilà. Si jamais quelqu'un est intéressé, il peut contacter Gouinement Lundi qui pourra vous mettre en relation avec moi.
Hello, je suis à la recherche d'un woofing ou d'une communauté autogérée queer dans la campagne anglaise ou tout autre pays limitrophe à la France pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleures adresses. Merci.
Vous avez un nouveau message.
Tu cherches des butch musclés pour ton déménagement ? Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment ? Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement Lundi.
L'émission touche bientôt à sa fin. Est-ce que, avant de nous quitter, Laurine et Sophia voulaient nous recommander un peu votre coup de cœur du moment ou coup de cœur de tous les temps?
Bah, comme on parlait de cinéma lesbien, j'avais envie de recommander un film qui est assez récent et qui était un peu connu, mais que j'avais adoré en sortant en 2022. C'était Les Cinq Diables de Léa Missius, qui est un film avec certaines scènes lesbiennes et que j'ai vraiment trouvé très très beau. Et notamment une très belle scène de karaoké entre Swala et Mathieu et Adèle Exarchopoulos. Et voilà, je vous le conseille beaucoup.
Moi, j'aimerais bien recommander un film qui est assez peu connu d'une réalisatrice française qui s'appelle Marie-Claude Treillou, qui s'appelle Simone Barbès ou La Vertu. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un film qui date des années 70, qui est assez incroyable. C'est un film qui se compose en trois parties. C'est l'histoire d'une meuf qui est ouvreuse dans un cinéma porno. La première partie, c'est vraiment... ça se passe dans les années 70-80 à Paris. Première partie, c'est des discussions avec sa collègue au travail. Ensuite, elle va dans une boîte lesbienne, elle retrouve son amoureuse. Et la dernière partie, c'est une balade un peu onirique dans Paris. Elle prend un mec en stop et juste, ils rentrent comme ça et c'est des discussions sur leur vie. C'est un film qui est très beau, qui est rarement montré, rarement cité. Donc, j'avais envie de le faire là.
Merci beaucoup pour ces recommandations. Et Gwynement Lundi, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos invités, Sophia et Laurine, pour cette discussion.
Ben, merci à vous.
Merci, c'était super. Oh.
Merci également à Lila de la JL et à toute l'équipe de Gwynement Lundi. Serena, Gaëlle, Inès, les deux Sophie, Yuna, Joséphine, Nola, Camille, Aura et Isabelle à la technique ce soir. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site gwynementlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que nos émissions sœurs Avec la langue, l'émission littéraire, et Club Gwyn, notre émission musicale. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous mettre des étoiles et nous partager, mais surtout, écoutez-nous.
Et plutôt que de vous inviter comme d'habitude à adhérer ou à faire un don à notre association Les Amis de Gwynement Lundi pour nous soutenir, on vous propose à nouveau de faire des dons en faveur de la Palestine. Est-il besoin de le rappeler, un génocide est en cours et la situation s'aggrave chaque jour. Donc si vous le pouvez, bien sûr selon vos moyens, vous pouvez donner aux associations comme La Palestine nous rassemble et le CNASAR, Urgence Palestine, Medical Aid for Palestine, l'UNRWA ou encore Palmed France. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Et on vous donnera également la liste vers les cagnottes destinées aux familles dont on a parlé précédemment. Sans transition, on écoute tout de suite le dernier Club Gwyn, juste après le générique, avec un mix concocté par Talita Otovic et Lou Forou du label Fairies Records. Prenez soin de vous et à Gwynement.